Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Radio Armada, les émissions confinées de ce mois de mai. Donc, comme nous vous l'avions annoncé, des petites émissions d'une demi-heure donc en direct, mais en partage confiné. Donc, nous ne sommes pas dans le studio, à part notre ingé son Alassane, qui lui, évidemment, est à la manœuvre. Donc, lui, de toute façon, il est toujours là. Donc, ce soir, revue de détail, Jean-Pascal, votre chroniqueur politique. Revue de détail, c'est l'actu des réseaux sociaux décrypté pour vous. Donc aujourd'hui en direct jusqu'à 18h30, nous sommes ensemble. Une semaine d'actualité analysée sous l'angle politique critique de la radio vis-à-vis des pouvoirs en place. Et cette semaine, le thème, on continue comme la semaine dernière, Covid, malgré la crise, rien ne change dans la Macronie. Alors voilà, nous avons passé le 11 mai, date fatidique pour le virus. Certaines mesures sont supprimées, d'autres sont maintenues. D'aucuns vivent aujourd'hui dans le rouge, d'autres sont mis au vert. Et premier couac, le texte n'a pas été publié à temps et donc ne sera constitutionnel que aujourd'hui, voire demain. Alors évidemment, on va regarder un petit peu en quoi, malgré tout, rien ne change vraiment en Macronie. Première rubrique, la rubrique argent. Au CHU de Nice, des contrats très précaires, pardonnez-moi, pour les renforts sanitaires. L'hôpital de Nice a recruté 64 personnes pour cause de surcharge de travail. Jusque-là, tout va bien. Les syndicats dénoncent la nature des contrats établis. Quand elle a entendu l'appel national aux soignants, Annabelle, on l'appellera Annabelle, s'est sentie, je la cite, « comme un soldat bloqué à la maison ». En tant que personnel qualifié, dit-elle, je ne me voyais pas rester chez moi et j'ai passé 5 ans dans un service de réanimation. Donc, je pensais que j'étais utile. Annabelle se rapproche donc du CHU de Nice et est embauchée dès le 27 mars pour 15 jours renouvelables. Elle fait partie des renforts, ses aides-soignants et agents des services recrutés par l'hôpital, pour répondre aux exigences du plan blanc. 3 jours après l'intégration de son service, Annabelle reçoit un mail qui annule et remplace le premier contrat. Elle ne tique pas et signe à nouveau. Elle découvrira plus tard que les conditions, la durée, et la rémunération du contrat de travail ont changé. Ce n'est plus un CDD, mais un contrat de travail pour surcroît occasionnel d'activité. Donc, on referme les guillemets. Dans ce contexte exceptionnel et conformément aux recommandations nationales, un contrat pour surcroît occasionnel d'activité COVID-19 a été mis en place. C'est ce qu'explique dans un communiqué la direction de l'hôpital qui se targue d'être l'établissement de France qui compte le moins de CDD. Très bien! Mais alors, la rémunération est-elle établie au réel en fonction du nombre de jours de travail effectivement réalisés sur le mois? C'est ce qu'explique le service du personnel. Annabelle a travaillé 2 mois en réanimation en secteur Covid, 12 nuits par mois, 12 heures par nuit. Elle pensait être rémunérée 1 490 € net mensuels, ce qui n'est pas la panacée, vous le reconnaîtrez. Elle a touché 150 € pour les 2 nuits de mars. Pour avril, l'estimation s'élevait à 850 €. Elle explose. Je suis payé 7 heures sur 12. Le reste le sera à la fin du plan blanc, au solde de tout compte. Comme on peut le constater, rien n'a bougé dans l'univers de la santé sous la Macronie. Covid ou pas, on économise, on exploite, on arnaque ceux qui, sans attendre un merci, vont sauver des vies, comme le disait la chanson qu'on a passée la semaine dernière. C'est proprement honteux. Mais bon, consolez-vous, Annabelle. Le Premier ministre a promis une prime de 1 500 € pour tous les personnels des EHPAD des 33 départements où l'épidémie aura été la plus forte et de 1 000 € pour tous les autres. Donc, Annabelle, vous êtes priée d'attendre. Autre sujet dans la rubrique argent, la taxe Jean Valjean, la déclaration de Vincent Lindon, l'acteur, qui veut que les riches aident les plus précaires. On cite Vincent Lindon. « Comment ce pays si riche, la France, 6e économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à se voir acculer à cette seule solution, utile certes mais moyenâgeuse, le confinement ?» Ce sont les mots de l'acteur Vincent Lindon dans un long texte publié par Mediapart mercredi dernier et relayé par le Huffington Post. Dans cet appel à la solidarité pour les plus démunis, Vincent Lindon fustige le quinquennat d'Emmanuel Macron et son goût, je cite, « pour la pompe et les rites de la monarchie ». Et il appelle les plus riches à contribuer à leur tour. Il suggère notamment une plus grande contribution des personnes les plus riches avec une taxe Jean Valjean, du nom du personnage principal des Misérables de Victor Hugo. Cette taxe serait conçue comme une forme d'assistance à personnes en danger, financée par les patrimoines français de plus de 10 millions d'euros. Et il continue, d'après les économistes que j'ai pris soin de consulter, cette contribution devrait représenter environ 37 milliards d'euros qui seront distribués aux quelques 21,4 millions de foyers trop pauvres pour être assujettis à l'impôt sur le revenu, explique l'acteur. Selon ce scénario, c'est l'État qui avancerait la trésorerie, ce qui permettrait de redistribuer 2 000 euros aux foyers les plus pauvres. Merci, Monsieur Lindon. Chapeau et respect. Alors, citons autre chose dans cette rubrique argent, le poste de Marie Malzac, journaliste chez LinkedIn, qui nous informe que, je la cite, le patron et cofondateur d'Airbnb, Brian Chesky, a annoncé le 5 mai le licenciement d'un quart de ses salariés, soit 1 900 personnes dans le monde. En fait, frappé de plein fouet par la crise liée au Covid, le groupe Airbnb prévoit des revenus 2020 de 50% inférieur à ceux de 2019. Ce qui fait dire à Francis Martinon, vice-président chez Accor Invest, pendant ce temps, je le cite, les hôteliers font tout pour préserver les emplois et travaillent d'arrache-pied pour offrir les meilleures conditions de séjour à leurs clients. Il faudra s'en souvenir. On apprend aussi que le pays où l'impact économique d'Airbnb est le plus fort, ce sont les USA, et oui, 33 milliards de dollars. L'effet boomerang frappe. Et oui, le pays de l'argent roi et des inégalités sociales les plus fortes. Le Covid l'a hélas montré. Je vous propose que nous nous offrions notre première pause musicale. Elle sera en hommage à Jean Valjean, donc du nom de la taxe proposée par Vincent Lindon, en hommage à Victor Hugo. Écoutons La Commune, chantée par Jean Ferrat. On se retrouve juste après.
Il y a 100 ans, commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'étaient des ferronniers aux enseignes fragiles, c'étaient des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'étaient des forgerons devenus des meublots. Il y a 100 ans, commun, commune, comme artisans et ouvriers, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme ouvriers et artisans, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, commun, commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, commun, commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Voilà, La Commune de Jean Ferrat, première pause musicale de cette revue de détails. Alors, nous allons aborder la rubrique suivante qui s'appelle Les empaffés du paysage audiovisuel français, les empaffés du PAF. On commence par BFM TV, qui est aujourd'hui la vitrine institutionnelle de la Macronie. Le représentant de l'Institut Montaigne, s'adressant à Yann Brossat, élu PCF de Paris, lance « Je ne propose pas le retour du travail des enfants ». Réponse de M. Brossat, je cite « Effectivement, il ne faudrait pas vous donner de mauvaises idées ». Alors, petit rappel, l'Institut Montaigne a proposé, dans une note publiée mercredi dernier, je cite « Des journées de travail plus longues, un jour férié et une semaine de vacances scolaires en moins, plus un recours accru au forfait jour dans la fonction publique ». Ce fameux Institut Montaigne plaide aussi pour une augmentation du temps de travail en permettant aux entreprises, je cite, de déroger au temps de repos minimum quotidien de 11 heures minimum par jour dans le cadre d'un accord sur le droit à la déconnexion, on n'invente rien, ou en autorisant l'employeur à titre temporaire, je cite, par exemple jusqu'en 2022, à imposer le rachat des jours de RTT pour les salariés au forfait sans majoration. Fin de la citation. Et d'ailleurs, il faut dire que pour que le monsieur chiffre de LCI, François Langlais, défenseur d'économie néolibérale, dise à la télé de ses propositions qu'elles, je cite, qu'elles n'arrivent pas au bon moment, il faut vraiment que ce soit le cas. Mais que l'on se rassure, l'Institut se défend de vouloir remettre en cause le temps de travail. Je cite le représentant sur BFM, « Dès qu'on touche au temps de travail, clame ce monsieur, on a un débat qui devient hystérique alors qu'on est sur des sujets fondamentalement économiques. Des problèmes de redressement économique. » Fin de la citation. Très bien. Alors, on va peut-être préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas, et puis pour tous les autres aussi, l'Institut Montaigne est un groupe de réflexion créé en l'an 2000 par Claude Bébéard. Bébéard, grand patron libéral qui, d'après le Canard enchaîné, finançait de façon importante la Manif pour tous, ce fameux mouvement opposé au mariage pour tous au moment du vote de la loi Taubira. En avril 2017, dans une tribune publiée dans Les Échos, Claude Bébéard apporte publiquement son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. La boucle est bouclée, il ne manquait plus que Attali sur le plateau. Autre item de cette rubrique, le déconfinement. Jacques Dion, journaliste, signale sur son compte que quand Amazon veut faire travailler des salariés, sans respecter les règles sanitaires, Laurent Berger de la CFDT crie au scandale. Quand la justice, à la demande de la CGT, exige de Renaud Sandouville le respect de ses règles avant de rouvrir, Laurent Berger, à ce moment-là, dénonce la CGT. Fin de la citation de Jacques Dion. Merci d'ailleurs à Mme Pécresse, présidente de droite de la région IDF, de conforter la CGT, fois n'est pas coutume, en l'accusant de faire partie, je cite, des amis de M. Mélenchon, on n'invente rien, hein, qui, je cite encore, veulent bloquer la reprise économique. Fin de la citation. Un soutien pareil, ça ne se refuse pas, non. Passons à la rubrique Solidarité internationale. On arrive sur le compte Twitter de Guillaume Mélani et on lit. Il s'appelle Abdelatif Naïla. Il a été victime de l'ignoble vague d'outing au Maroc. Quand il porte plainte pour diffamation, c'est lui qu'on arrête pour non-respect du confinement et outrage. Une homophobie à peine mal traversée. Son procès a eu lieu hier. Nous le soutenons totalement et nous indiquons qu'il existe un hashtag « Nous sommes Abdelatif » sur lequel on peut se brancher pour affirmer son soutien. Point suivant de la rubrique, on passe au Venezuela. On apprend que 34 mercenaires ont été arrêtés dans l'enquête sur l'invasion déjouée au Venezuela. C'est ce qu'a annoncé le président Nicolas Maduro. Cette invasion manquée que le dirigeant vénézuélien a comparée à celle de la baie des cochons à Cuba en 1961 a consisté en un débarquement d'hommes, donc les 3 et 4 mai à Macuto, à moins d'une heure de route de Caracas sur la côte Caraïbe. Le plan était en fait d'enlever le chef de l'État pour permettre l'arrivée au pouvoir de son opposant Juan Guaido, reconnu entre guillemets comme président par intérim par les États-Unis et de nombreux autres pays. Nicolas Maduro, lui, a réitéré qu'il considérait le président américain Donald Trump comme, je le cite, commandant en chef de l'opération. On attend donc avec impatience la dénonciation ferme de l'État français. On attend. Je vous propose d'aborder maintenant notre deuxième pause musicale de Revue de Détail, et c'est l'occasion de rendre hommage à Cécile Rol-Tanguy, qui s'est éteinte donc à 101 ans. Médaillée de la Résistance, membre du PCF et de la CGT, Cécile Rol-Tanguy était présente avec son mari, le colonel Rol-Tanguy, le 25 août 1944 pour la libération de Paris. C'était elle qui, le 19 août 1944, avait rédigé l'appel à l'insurrection des Parisiens. Cécile est partie le 8 mai. Une ultime révérence à l'histoire d'une grande résistante, une grande dame. En sa mémoire, on va écouter l'estentor chanter Paris en colère, qui était la chanson du film Paris brûle-t-il de René Clément. On écoute, on se retrouve juste après.
Et Paris se met en colère.
Et Paris commence à gronder. Et le lendemain, c'est la guerre.
Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il la soigne à sa façon.
Il faut voir les Paris sauter quand Paris se met en colère.
Voilà, donc Paris se met en colère, estentor à la mémoire de la libération de Paris et de Cécile Rol-Tanguy. Alors, on se retrouve donc pour cette revue de détails avec la rubrique « Maintenant, il n'en rate pas une ». On va commencer d'abord le 13 avril dernier. Lors de son allocution télévisée, le président Macron a boré un teint-aller qui a questionné bon nombre de téléspectateurs. Plusieurs hypothèses ont alors vu le jour sur la toile. Emmanuel Macron a-t-il été trop maquillé? Possède-t-il une cabine à UV à l'Élysée? Est-il parti se confiner au fort de Brégançon? Tant de questions qui étaient jusqu'ici restées sans réponse. Mais c'était sans compter sur Le Point qui, dans son nouveau numéro en kiosque, le 7 mai, a levé le voile sur cette affaire. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, un visiteur du soir a donné une explication. Et elle est toute simple. Le président a bossé et déjeuner pendant un mois et demi sur la terrasse de l'Élysée. En effet, pour travailler ses dossiers durant la période de confinement, Emmanuel Macron a préféré s'installer dans le parc du palais présidentiel, baigné de soleil, plutôt que dans un bureau sombre où il n'aurait pas entendu le chant des oiseaux et aurait été privé du beau temps. D'après nos confrères du Point, le président de la République n'a pas choisi son lieu de bronzette au hasard. Emmanuel Macron se serait installé à l'endroit où un ancien président avait lui aussi ses habitudes. Effectivement, en son temps, François Mitterrand appréciait prendre le soleil du côté de la rue de l'Élysée. On respire et dire qu'il est des esprits chagrins qui prétendent qu'il est président des riches. Mais non, il travaille dur et lui au moins ne part pas contaminer les Français dans sa résidence secondaire en province. Il est resté sur le balcon dont HLM, ou plutôt HLG, habitation à loyer gratuit, en fait payé par nous. Voilà. On va passer à Marseille, Jean-Claude Gaudin. Il a dû renoncer à sa retraite, mais pas à ses indemnités, précisons. Pour cause de municipale reportée, assure, je le cite, que tout est prêt, école comprise, dans sa bonne ville de Marseille. Hier encore, a affirmé un élu de sa majorité, Il était en ligne avec le préfet et le recteur, à qui il a même donné le menu de la cantine pour le 11 mai. C'était des pois chiches en entrée. Pour quelqu'un qui avait pratiquement arrêté, il tient son rang et à la bataille. Fin de la citation. Lundi de la semaine dernière, actualité du déconfinement oblige, c'est au tour de la reprise des écoles que Jean-Claude Godin a centré sa vidéo hebdo, qu'il fait donc, on dirait, « Tout est prêt, tout a été préparé », fin de la citation, et tant pis d'ailleurs si les parents d'élèves dénoncent une reprise prématurée, mal préparée, je les cite, « reprise d'autant plus incertaine que l'état de délabrement de nombreuses écoles de la ville n'arrange rien ». À 80 balais, le monarque de Marseille, qui ne manque pas d'encenser le professeur Raoult, travaille, toujours selon son entourage, l'après-rentrée. L'après-rentrée, d'ailleurs, ce sera le test de vérité. Alors, le Covid testé grâce à l'école, en fait, il fallait s'appeler Godin pour oser. Passons maintenant à un guide concerté avec les partenaires sociaux, donc, pour accompagner les entreprises qui ne se sont pas habituées au télétravail. Ce guide sera publié dans les 24 heures, a fait savoir la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, celle qui ne finit jamais ses phrases, la semaine dernière. Bravo la ministre! Elle a juste oublié de préciser, il s'agit des entreprises encore vivantes dans les prochaines 24 heures. Celles qui reprendront ou ont repris une activité quasi normale après le déconfinement. Pour les autres, soit elles savent gérer le télétravail et ont accusé le coup avec perte à l'appui, soit elles ont fermé, soit elles ne peuvent pas faire télétravail et ne s'y habitueront jamais, les pauvres. Coronavirus toujours, Christophe Castaner qui regrette la photo prise dans l'usine de masques sans respect des gestes barrières. Très commenté sur Twitter. La photo montre le ministre de l'Intérieur entouré des couturières d'une usine de masques à Annelin, dans le Nord. Problème, celui qui participait jeudi dernier à la présentation du plan de déconfinement aux côtés du Premier ministre ne porte pas de masque et pose en compagnie d'une trentaine de personnes, sans aucun respect des règles de distanciation physique. Cette photo n'aurait pas dû être prise dans ces conditions, fait savoir la place Beauvau qui ajoute, je cite, « les habitudes sont dures à changer ». Fin de la citation. On n'invente rien. Cela donne d'ailleurs l'occasion au docteur Legrand Bertrand, médecin généraliste à Tourcoing, fondateur de l'Observatoire du tiers payant, de regretter sur son compte Twitter que, je cite, « le ministre Castaner se moque de pratiquer les gestes de distanciation qu'il prêche, et nous on rajoutera au profit de sa com et de celle de la Macronie. » Passons à un autre item, le service, le fameux service des infox coronavirus qui avait été mis en place par le gouvernement et qui a été rapidement supprimé face aux critiques. Ce service recensait sur le site du gouvernement des articles sur le Covid-19 issus des services de fact-checking de France Info, Libération, 20 minutes, Le Monde et l'agence France Presse. Le service a été supprimé le 5 mai face aux vives réactions qu'il a suscitées chez les journalistes, beaucoup lui reprochant de s'ériger en arbitre de l'information et de porter atteinte à la liberté de la presse. « On a malheureusement été mal compris », je cite, a estimé vendredi l'ineffable porte-parole Tibet Ndiaye, qui rajoutait, je cite encore, « il est normal que le gouvernement souhaite faire en sorte que le maximum d'informations sûres et vérifiées soient mises à disposition. C'était l'unique but que nous recherchions. » Fin de la citation. « Eh bien malheureusement non, madame, car vous avez au contraire été très bien compris. L'État, contrairement à vos opinions à La République En Marche, n'est pas l'arbitre de l'information, surtout quand il donne l'impression, dans un mélange des gens délétères, de labelliser la production de certains médias. En France, pour l'heure, la liberté de la presse, la vraie s'entend, celle qui suffisait de consulter, n'est pas une vue d'esprit, chère madame. » Toujours la même porte-parole. Et d'ailleurs, qu'on ne croit pas que nous en fassions une fixette, hein, ce sont simplement des faits. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a-t-elle attendu le mois d'avril pour commencer à dire qu'il fallait tester de manière massive? C'est ce qu'a déclaré la porte-parole lors d'une interview toujours sur BFM, dimanche, afin de défendre la gestion de la crise du coronavirus par le pouvoir exécutif. Alors elle rajoute, c'était une affirmation lancée de mémoire, mais en fait qui est fausse. L'OMS avait en effet lancé dès le 16 mars un appel marquant à mettre en œuvre de grandes campagnes de dépistage avec une formule choc, tester, 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 tester tout cas suspect. Il n'y avait donc aucune ambiguïté. Ça sent vraiment le désordre dans la Macronie. Il n'en aurait décidément pas lu. On va passer à la rubrique humour de cette revue de détails. Valéry Giscard d'Estaing, qui est visé par une plainte pour agression sexuelle. L'ancien président de la République est accusé par une journaliste allemande de lui avoir posé les mains sur les fesses lors d'une interview en 2018. Anne-Catherine Stracht, donc la journaliste âgée de 37 ans, était reçu par Valéry Giscard d'Estaing pour une interview à la chaîne allemande WDR.